à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couve, l'émission de débat autour du manga. J'espère que le week-end de Pâques s'est bien passé pour vous tous et que vous avez profité pour faire baisser drastiquement vos piles à lire, vos piles de manga à lire ou vos piles de livres à lire, vos fameuses pales, parce qu'on va encore la faire grossir avec une sélection de quelques mangas. Promis, cette fois on n'en a pas choisi beaucoup, mais je suis certain que dans ces titres-là, vous allez trouver votre bonheur avec notamment... dans cette sélection, des traits particulièrement affirmés.
Ouais, c'est ça, de la personnalité graphique, je dirais, puis surtout des profils d'artistes assez différents et aussi, bien que tu dis, comme tu dis, des traits remarqués, marqués, il y a aussi, c'est assez hétérogène, quoi. Il y en a pour tous les goûts, je pense.
On n'en dit pas plus, enfin, fallait regarder le visuel sinon. Voici donc notre petite sélection de manga du moment dans la cinquième de couve.
On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols.
Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir.
On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre.
Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles.
Oh, les bâtards.
Vous êtes en train d'écouter la cinquième de couve, merci à tous de nous écouter, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, on vous accompagne avec toujours, toujours, toujours plus de mangas. Salut Julie, salut Robin.
Salut.
Salut.
Est-ce que vous avez lu des mangas sur ce week-end, Pascal?
Bah parce que j'étais obligé.
Oh là là. Oh, c'est mec. Horrible.
J'ai essayé de trouver un moment entre les moments où je mangeais et je buvais ce week-end prolongé.
Entre l'agneau et la pâte d'amande.
Voilà, c'est ça. Et les chasses aux œufs.
Oui. Le chocolat.
Julie, t'as attaqué combien de mangas?
J'en ai attaqué certains, mais j'ai envie de te dire, j'en ai pas attaqué assez.
Jamais là, c'est possible. La lyre est toujours très grande.
Elle est toujours trop haute. Voilà.
Si vous nous découvrez seulement maintenant, sachez que nous revenons chaque semaine avec une heure de podcast, parfois plus, rarement moins, pour parler de manga, essentiellement de manga, analyse, problématique, hommage, top, et donc aujourd'hui, des recommandations. Scrollez bien et vous verrez, c'est très varié. Si vous aimez ce qu'on fait, eh bien sentez-vous libre de nous mettre une très bonne note sur les différentes applications podcast, et sentez-vous libre d'activer les notifications. Dans cette émission, nous avons sélectionné quelques mangas qui valent le détour, à commencer par Kindergarten Wars, qui sort cette semaine. On en parlera quelques instants en toute fin d'émission, parce qu'on lui consacre pour moitié le podcast de la semaine prochaine. Donc soyez patients, mais en attendant on a plus violent avec le nouveau JoJo's Bizarre Adventure, The JoJo Lands, avec Réflexion aussi, ou Reflection, le nouveau manga de Kei Sombe, avec The Bugle Call aussi, un manga de dark fantasy bien intéressant, et avec Yann, un titre vraiment très surprenant dont Kanyar avait parlé dans notre émission sur les stars du manga en 2024. Et il faut dire que ce titre nous a vraiment bien tapé dans l'œil à tous. Et toi, Robin, il t'a plus que tapé dans l'œil, puisque c'est grâce à toi notamment qu'il est disponible et qu'il sort en France.
Oui, effectivement, il s'avère que j'en suis l'éditeur. Je suis éditeur de bande dessinée à côté du podcast. Je fais principalement de la création française. Je fais pas du tout de manga. D'ailleurs, Yann n'est pas à proprement parler un manga. Mais ça m'empêche pas de temps en temps d'aller regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs. Hors du Japon, on va dire. Effectivement, j'avais vu passer cette série où j'ai vraiment vu les pages et je me suis dit, je me rappelle très bien, j'ai mis le doigt sur le catalogue avec l'agente qui m'a proposé le truc. J'ai dit, je veux ça. Voilà.
Et alors, c'est marrant parce que, c'était pour être transparent, hein, c'est-à-dire que tu vas en dire du bien, oui. Mais tu vas pas en dire du bien que parce que c'est toi qui l'as dit. Parce que, en général, quand on édite un livre, c'est parce qu'on trouve bien déjà avant. Ouais. Donc, bon, il y a quand même cette étape-là aussi à prendre en compte. Et puis, tu lui dis d'autres livres qui pourraient s'apparenter à du manga, dont on n'a pas parlé dans cette émission. Donc, on ne fait pas du favoritisme Robin.
Non. J'ai été très agréablement surpris de voir qu'il vous a tous plu. Bon, je m'en doutais un petit peu avant de vous l'envoyer quand même, mais ouais.
Mais avant de parler de ce manga, Yann, hein, avec cette couverture rose bien flashy, ça bravo, hein, parce qu'on peut bien le voir dans les librairies, avec cette couverture rose bien flashy, ce manga, Yann, il va chercher plein de petits trucs qu'on aime dans la cinquième de couve. Il va choper un tout petit peu de Psyrene, il va choper un tout petit peu de Journey Beyond Heaven, il va choper un tout petit peu de Tsutsui, un tout petit peu de ci, un tout petit peu de ça, et sur plein de... Enfin, ça fait penser à plein plein de choses et à chaque fois les bons petits ingrédients qu'on aime bien.
Ouais, moi je rajouterais un peu de Kaneko. Dans son trait, dans la façon dont il met en scène des personnages féminins qui n'ont pas les, comment on dit, froid aux yeux quoi. c'était un chouette titre à découvrir. Et puis en fait moi je reviens sur la couve, il y a aussi le côté opéra chinois aussi qui fait que, enfin moi j'aime bien ce genre d'exotisme. Effectivement on s'éloigne un peu du Japon, mais c'est pour y revenir aussi au fil de la lecture. Enfin il y a différentes entrées dans cette série, parce que c'est une série.
Oui, c'est en trois volumes. En fait, je pense que ce qui m'a plu et ce qui nous a plu, d'ailleurs, c'est souvent le cas dans les séries qui tapent un peu dans l'œil de toute l'équipe, c'est que c'est vraiment une série qui est à la croisée des genres, et que ce soit visuellement, mais aussi
dans le scénario.
Ça commence comme un pur récit de vengeance à la Kill Bill, Lady Snowblood, etc. Puis en fait, ça bascule dans quelque chose de beaucoup plus complexe, vaste et un peu what the fuck même. Et du coup, oui, ça va piocher dans la SF, ça va piocher dans le thriller, dans le récit de vengeance, ça va piocher dans les films de Kung Fu avec des scènes de chorégraphie hyper détaillées et tout.
C'est dur de raconter sans trop spoiler, en fait, parce que
je vous propose de le faire.
Allez.
Yann, donc Y-A-N, hein, comme le prénom breton avec un N de moins. Yann, c'est un manhwa donc de Shen Chang qui nous vient de Taïwan. Il y est question d'une super héroïne, non pas masquée, mais maquillée. Yann s'est fait accuser de meurtre, du meurtre de toute sa famille, qui faisait partie d'une troupe d'opéra, un peu particulière d'ailleurs. Et elle a donc été enfermée dans un centre de recherche ultra sécurisé jusqu'à ce qu'il explose et qu'elle revienne en force 10 ans plus tard avec des habiletés exceptionnelles au combat et qu'elle est bien décidée à venger sa famille. Elle se retrouve alors embarquée dans une spirale infernale. Et la spirale infernale, je trouve que c'est vraiment le bon terme pour ce manga. Aux côtés d'une gamine, championne de go dotée de préscience, d'un vieux flic à la retraite et d'un mec dont on dira que peu de choses pour pas trop spoiler. Et il doit faire face à une IA et à plein d'autres choses très très SF quoi.
Ouais carrément. Et en fait moi c'est ça aussi que j'ai bien aimé, c'est ce côté qui mélange les genres effectivement, mais aussi ce truc de tu sens que il y a des petites postfaces à la fin de chaque volume, tu sens que l'auteur c'est un vrai fan de pop culture, tu vois. Il adore ça,
oui,
il aime les récits de super-héros, il voulait créer sa propre super-héroïne et tout. Et en même temps, il vient de Taïwan, il veut aussi parler de ça, de sa culture, de son ancrage et ses traditions et tout. Et il a vraiment réussi à mixer le truc et à faire son héroïne, sa super héroïne taïwanaise ou d'influence chinoise, on va dire, avec justement les atours de cette culture-là. Et ça crée vraiment une identité très forte aussi à la série, je pense.
Tu me dis que c'est une commande Marvel, je ne serais pas...
Oui.
Je ne serais pas surpris, c'est super bien pour une commande Marvel en plus.
Ça serait mieux même.
ça pourrait s'inscrire, tu vois. Tu peux l'avoir totalement aux côtés d'un Iron Man. Tu trouves pas ça bizarre, quoi. Tu te dis juste, c'est leur truc de Marvel de vouloir essayer de conquérir toutes les cultures.
Un nouveau territoire.
C'est ça, ouais.
Oui,
et ça s'inscrit parfaitement dans ces récits-là, sauf que c'est un manhwa, mais sauf qu'on est aussi dans les codes du seinen manga. On sent qu'il en a lu des tonnes, quoi.
Ouais, d'ailleurs, de base, même la calligraphie, le symbole Yan tel qu'il a été dessiné, c'est un hommage à un très grand mangaka qui est Hiroshi Hirata. C'est vraiment, on sent aussi que il le précise l'auteur dedans, c'est que l'influence du manga est aussi prégnante chez lui. Et en l'occurrence, moi comme je vous disais, je suis éditeur principalement de bande dessinée, donc normalement moi les albums que je fais sont pas labellisés manga, mais là c'est vrai, quand on a vu le bouquin et l'aspect graphique qu'il avait, on pouvait pas le sortir autrement que dans la collection manga, quoi.
Ouais, d'ailleurs, il est, enfin, dans le sens de lecture japonais.
Ouais, il est en sens de lecture orientale. C'était aussi pour ça que on l'a. C'est un peu la décision qui a entériné. Enfin, ce qui a entériné la décision, c'est de se dire, en plus, il est en sens de lecture
Il est en noir et blanc.
Et il est en noir et blanc et tout. Donc, alors, l'édition originale est un tout petit peu plus grande que celle qu'on a choisie. Nous, on s'est calé sur le format Perfect, ce qui est le format des Sanctuary, Mermaid Saga et tout ça, qui est un petit peu plus petit que l'édition originale. Mais on a essayé aussi de retrouver le rose, comme vous disiez, bien pétant de la couverture en mettant un joli Pantone 806C. Je donne la référence si jamais vous voulez le même rose chez vous.
Voilà.
Mais tome 2 et 3, c'est aussi un Pantone.
Ouais, alors le tome 2, bah là, on est en train de le boucler. Donc, on vient de choisir le Pantone. Là, je ne me rappelle plus du numéro, mais c'est un espèce de bleu-vert un peu turquoise. Voilà. Et le tome 3, ce sera un jaune. Ah. Pétant,
voilà. Non, mais c'est bien parce qu'on voit que comment dire, là, on est en live, quoi, tu vois, sur la fabrication
d'une série. Tu choisis les choses.
Voilà, au cœur de l'action avec le cinquième coup.
Ouais, c'est ça. Mais moi, ce qui était marrant, c'est qu'au final, évidemment, je ne lis pas le chinois ou le taïwanais. Donc, j'ai un peu découvert aussi la série en même temps que je travaillais dessus. C'est-à-dire que moi, quand je me suis positionné dessus, j'avais juste vu les pages, j'avais eu un petit résumé, mais comme vous disiez, le résumé, il dévoile pas vraiment l'intrigue. Donc au final, j'ai bien aimé moi-même me faire complètement surprendre par l'intrigue où en fait, quand j'avais la trad qui avançait, je disais « Ah oui, d'accord, et donc il se passe ça après, d'accord, bon. » Ok, c'était assez marrant.
Mais c'est ça qui est fort, c'est-à-dire qu'on commence vraiment, mais je crois que Kanyar l'avait d'ailleurs dans l'émission sur les stars du manga en 2024, l'avait présenté comme un thriller qui basculait dans quelque chose. Il n'a pas voulu dire vraiment quel était ce quelque chose. Et ce quelque chose, c'est de la science-fiction, globalement. Mais on est sur du récit de super-héros. Donc, récit de super-héros, on bascule forcément soit vers du fantastique plus largement, ou soit vers de la science-fiction. Mais on sait que la technologie est aussi très, très présente dans les séries de super-héros, dans les récits de super-héros en général.
Bah, c'est ça, je pense. De toute façon, la meilleure manière de le définir, c'est que c'est un manga, un manhwa de super-héros, quoi. Voilà.
Et en revanche, tu sais où tu as lu la fin, toi ?
Oui.
Mais il va pas nous la raconter.
J'ai lu la fin, je vais pas vous raconter. Alors du coup, oui, on s'est dit que l'avantage, c'est que la série, quand j'en ai acquis les droits, était déjà terminée. C'est en trois volumes. Donc j'ai pu bosser un peu en amont, faire du frigo, comme on dit dans le jargon, pour un peu les sortir assez rapidement. Donc normalement, si tout se passe bien, les lecteurs français auront les trois tomes cette année, quoi.
Ah ouais, ça c'est cool, voilà. C'est une bonne nouvelle, je suis contente.
Et l'auteur vient en Europe, à Bruxelles. On a plein d'auditeurs aussi qui sont du côté de la Belgique, donc ils ont aussi l'occasion de rencontrer cet auteur de manhwa.
Bah oui, donc c'est ce week-end là, puisque le podcast sort en mardi, ce sera ce week-end, c'est à la Foire du Livre de Bruxelles, donc c'est pas un événement spécifiquement bande dessinée, c'est un événement sur le livre en général. Et en fait, l'auteur, Zhang Sheng, est invité par la Foire et aussi, enfin, déplacé par la Taika, qui est un espèce d'institut, un service public taïwanais qui finance la création et la culture taïwanaise. Donc ils ont financé la venue de l'auteur en Europe, ce qui est très cool. Ça nous permet ça va me permettre de le rencontrer, ce que je n'ai jamais vu. Et puis du coup, ça permet aussi aux lecteurs européens, pile au moment de la sortie, de rencontrer l'auteur. C'est plutôt cool. Il y aura, il me semble, deux ou trois séances de dédicace et une masterclass qui sera le dimanche. Donc voilà, si vous voulez en apprendre un peu plus sur cet auteur et cette série, ce sera l'occasion.
Bon, maintenant, sors de cette peau d'éditeur. Voilà. Et mais revenons sur l'œuvre, sur ce tome 1 en lui-même, avec des influences qui ont l'air de venir de tellement de mangas, avec Akira pour commencer.
L'univers est très urbain. Non, parce qu'en fait, moi,
je pense que j'étais vraiment hyper dans la hype du début. Vraiment, de me dire, ouais, ça va être un truc de vengeance et tout. Et j'étais vraiment restée sur cette impression très forte, très imprégnée, comme tu dis, peut-être de Kill Bill ou de certains films hongkongais, qui ensuite étaient repris dans des mangas ou au contraire, la loupe n'a plus de sens. Parce que on sait que Kill Bill, ça a été aussi inspiré par Lady Snowblood, qui était un manga du Kimura, etc. Mais c'était vraiment... Enfin, je trouvais que c'était très... très classe, quoi, effectivement. Et après, le basculement était... Enfin, moi, je suis tombée de ma chaise.
Vous feuilletez pas, vous, des fois? Moi, ça m'arrive tout le temps, quand je tombe sur quelque chose que je connais pas.
Bah là, il était en fichier PDF.
Ah bah ouais, et justement, tu peux scroller d'autant plus vite.
J'aimais bien le fait de découvrir page à page.
Oui, et de pas avoir déjà... Parce que déjà, visuellement, t'as un spoil à la fin du tome 1 qui te fait comprendre cette bascule, mais... Mais moi, d'ailleurs, bah, encore une fois, quand j'ai récupéré le bouquin qui était encore écrit en taïwanais, j'ai vu, je voyais les pages, j'ai dit, mais comment ils vont expliquer ça, ces visuels-là ce moment-là, ouais. Mais moi, je pense qu'il y a... Moi, alors, ce qui m'a vraiment soufflé dans ce truc, bon, il y a vraiment la dimension, effectivement, graphique, c'est ultra bien dessiné.
Oh, c'est beau.
Les chara-design, tout est très inspiré et tout. Mais c'est surtout, moi, le découpage des scènes de baston. Et encore, là, dans le tome 1, c'est encore sage, mais après, vous n'êtes pas prêts. Hein. Il y a des séquences, on a vraiment l'impression de voir une scène d'un film de Bruce Lee avec quasiment format storyboard et tout. C'est vraiment très très bluffant la qualité des chorégraphies de combat dans cette œuvre.
Et les chara-design super bien trouvés, parce que ça marche vraiment trop bien, mais comme une série de super-héros, en fait, tout simplement.
Oui, ils ont tous leurs trucs distinctifs.
C'est ça. Elle a donc le maquillage distinctif de l'opéra chinois traditionnel. Elle est avec la gamine qui est dotée de prescience, qui, elle, a un masque japonais, parce qu'elle est japonaise.
Ouais, ouais.
Et qui est une petite ado, en plus, habillée en lycéenne japonaise. Il y a le vieux flic... Il y a des vieux vêtements,
oui.
Qui ont l'air de sentir l'alcool, les cheveux, il a pas l'air d'avoir pris de douche depuis 10 ans. Il a vraiment le pur style. Et le mec qui a une espèce de petite tête de beau gosse un peu ricain,
ouais.
Derrière, je trouve que ça marche, bah, ça fait, marche bien. En fait, c'est ouais. ce cadrage-là, on dirait que c'est que des stéréotypes ou que des archétypes. Mais en revanche... ça ne sonne pas comme déjà vu une fois que tu es dedans.
Bah, c'est exactement ça, c'est que de toute façon, c'est aussi souvent, on se dit, vaut mieux faire comme on a déjà fait, mais bien, que faire du nouveau, d'accord. Mais pas bien. Et c'est vrai qu'il y a un côté assez stéréotypé, ils sont tous, tu pourrais tous les avoir déjà vus dans un autre truc et tout, mais là, il y a une espèce de mayonnaise qui prend, mais c'est au-delà des personnages, c'est aussi le mood de la série, quoi, qui est vraiment tellement original, qui est vraiment, en tout cas, ce mix un peu what the fuck crée aussi cette identité. Moi, ça m'avait fait penser à Everything Everywhere All at Once,
oui,
aussi, le film,
qui
vient aussi piocher dans du truc de kung-fu, du multivers, du récit à la Matrix, enfin
à
la Wachowski,
quoi.
Et tout. Et voilà, et c'est vrai que ça fait un truc très très actuel, très 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 moderne, quoi.
Donc voilà, Yann de Shengshang.
Shang-Cheng,
pardon. Ça va être en 3 tomes. Les 3 vont sortir cette année. Le tome 1 sort donc cette semaine. Au moment où vous écoutez cette émission, vous devriez pouvoir le trouver dans votre librairie, puisqu'en général, les libraires ont les livres la veille.
Ouais. J'ai déjà vu, j'étais ce week-end à Strasbourg et je l'ai déjà vu sur une pile.
T'as fait des photos et
mais
tout.
Mais il sort que demain. qu'est-ce que je voulais dire d'autre, et que bah voilà, si vous êtes fan de la cinquième de couvre, en vrai
il faut essayer,
il y a des chances que ça
vous plaise. Non, mais c'est sûr, je vois pas, comme c'est comme Journey Beyond Heaven, on savait que ça allait vous plaire, et donc bah là Yann, alors c'est autre chose, hein, c'est, je
oui,
sais
oui.
De Journey,
ah, oui,
mais
oui.
Parce que on est tombé dessus, on s'est dit
bah,
mais alors, ça va plaire à tous les auditeurs, mais
quand même on peut le mettre
c'est, à mon avis, c'est un peu con de dire comme ça, mais c'est l'auteur est pas japonais, donc je pense aussi il apporte un truc, une espèce de
c'est
truc
chose,
un peu
ouais.
frais
ouais.
qu'on n'a pas l'habitude de voir, quoi.
Ouais, mais encore une fois, j'ai l'impression de voir du manga tout le temps en
oui.
lisant, en fait c'est ça aussi qui
c'est ton filtre manga, il faut l'enlever.
Ouais, mais en fait vous sous-estimez la puissance qu'a le filtre manga quand on
oui.
on,
non, vrai,
quand on lit majoritairement des mangas, on a des fois, parfois, du mal à lire d'autres choses sans appliquer ce filtre et sans comparer sans cesse,
non, mais
puisque
oui,
c'est devenu un référentiel.
Ouais,
oui,
non, complètement.
C'est vrai.
Voilà, donc Yann, et c'est aux éditions Glénat. La suite de cette émission, c'est avec un titre qui s'appelle The Bugle Call. The Bugle Call, c'est la Dark Fantasy et c'est édité par Kihoon. Et la Dark Fantasy et Kihoon, c'est quand même une sorte de love story, hein, qui dure depuis 20 ans
ah
maintenant.
Oui, wow.
Puisque la maison d'édition fête son anniversaire, c'est 20 ans cette année, avec notamment l'Antre Kihoon qui ouvre aussi cette semaine sur Paris. Ça, c'est pour ceux qui ne vont pas à la Foire du Livre de Bruxelles, ils peuvent rester à Paris et aller à l'Antre Kihoon. Ça va durer jusqu'au 14 avril, jour de la Saint-Maxime.
Ah,
très belle journée.
Ah là là.
Donc voilà, non, mais regardez sur le... Oh, incroyable. Ouais. Regardez sur le site web de l'éditeur ou sur les réseaux sociaux. Il y a plein d'activités, il y a pas mal de choses qui sont proposées. Il y a l'autrice de Kindergarten Wars qui vient aussi en France.
Ça, c'est cool.
Il y a du Rakugo.
Il y a du Rakugo, exactement. Il y a plein de choses. Et puis, il y a Cthulhu qui sera...
Oui. Par là.
Une sculpture de Cthulhu, pas le vrai Cthulhu, qui sera là. The Bugle Call, donc, de la Dark Fantasy. C'est la toute première série du scénariste Mosoku Sora et du dessinateur Higoro Tomori. Un duo au parcours un peu étonnant, puisque ces deux auteurs étaient collègues. C'était des collègues de travail, ils travaillaient dans la même entreprise, qui n'avaient aucun lien avec la culture pop, avec la culture manga, avec la culture geek, ils faisaient autre chose, genre ingénieur informatique, un truc comme ça. Quoi. Okay.
Ouais, ils vendaient de logiciels.
Et à force de partager une passion pour le manga, ils se sont lancés, ils discutaient souvent, oui. Puis un jour, ça, c'est, on devrait se lancer.
Mais ça va nous arriver aussi. Ouais, j'en ai plein, j'ai plein d'idées.
Ils se sont lancés dans l'aventure en passant un concours organisé par Shueisha, et puis voilà, The Bugle Call est né. Aucun de nous ne dessine aussi bien.
Oui, c'est ça le problème, c'est que Julie, il va falloir que tu trouves un dessinateur.
Mais toi, t'en connais plein, idées. Alors on peut s'arranger.
Ce manga, donc The Bugle Call, c'est l'histoire de Luka, L-U-K-A, un garçon de 14 ans qui a été recueilli bébé par le chef d'une compagnie de mercenaires, Gerhardt.
Tiens, tiens.
Et depuis, il participe à toutes les guerres en transmettant les ordres sur le champ de bataille en tant que clairon. C'est le premier héros du manga, clairon,
oui,
je crois.
C'est original.
Et donc, il a deux particularités, ce garçon, une sorte de corne et une capacité à voir les sons. Ça, il faut lire le manga pour vraiment comprendre ce que ça sous-entend. Et donc, un jour, suite à une défaite décisive, il est embarqué jusqu'à un état pontifical de ce monde-là qui va lui apprendre à devenir musicien et surtout à mettre son pouvoir et son sens tactique à son service. Et là aussi, visuellement, ça envoie direct.
Ah, c'est beau. Enfin, les chara-designs sont superbes. Enfin, il y a vraiment cette ambiance dark fantasy médiévale avec plein de références à des images que nous, on connaît, quoi, de forteresses assaillies, de grands champs de bataille, d'armes aussi médiévales qu'on a vues dans d'autres séries, dans des films aussi parfois. Mais c'est dans un manga tout beau, tout neuf, quoi. Enfin,
surtout que c'est impressionnant de la part de, comme tu dis, d'un gars qui finalement vient pas de la formation manga classique, quoi. Donc le gars a quand même un sacré niveau en autodidacte. Je sais pas comment il a appris, quoi, mais effectivement c'est vrai qu'en plus la dark fantasy c'est un genre qui pardonne pas trop, quoi, tu vois. Faut vraiment être serein sur ses appuis pour dessiner la dark fantasy, parce que tu vas avoir des armées, des forteresses, comme disait Julie, tout un environnement visuel qui est déjà très marqué, très référencé. Il faut il arrive vraiment aussi à trouver son identité là-dedans, grâce à notamment quelques trouvailles graphiques. Je trouve, effectivement, tu parlais du pouvoir du héros, il y a un truc vraiment très
assez visuel,
assez malin et visuel pour traduire ce truc, parce qu'au final c'est compliqué, encore une fois on l'a déjà dit, mais le son et le manga, ça fait pas très bon ménage. Il a plutôt une bonne idée pour ça, et puis je trouve les chara-designs, c'est super inspiré aussi, quoi. Il y a vraiment, chaque personnage a vraiment un truc, puis il y a des persos qui ont des designs vraiment un peu improbables, on va dire, mais en même temps très cool, quoi. Genre ce fameux personnage à tête de Futio,
le pape,
je le trouve dingo, quoi, ce design. Il est trop trop cool, quoi. Et en plus, on ne sait pas vraiment pourquoi il est comme ça, quoi.
Tout le monde lui disait, mais arrête, tête de flûte.
Non, mais tu vois, moi je me disais, je sais pas, ça se trouve, c'est un casque qu'il a qui a cette forme-là. C'est un vrai mec en dessous, on ne sait pas. Ou alors ça se trouve pas du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que le flou est encore présent par rapport à ça. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Les compétences du héros qui sont assez originales. Enfin, il y a un truc vraiment qui fait que ce manga se démarque d'une production finalement en dark fantasy qui commence déjà à être assez...
Et alors, il y a un truc dans la dark fantasy, c'est qu'en général, c'est quand même assez sanglant, assez violent, la dark fantasy. Et je trouve que là, c'est beaucoup plus équilibré par rapport à beaucoup d'autres titres de dark fantasy.
C'est-à-dire que forcément le souverain en la matière, c'est Berserk, donc il a un peu placé la barre assez haut en matière de violence et symbolique et graphique. Mais là, je pense qu'il évoque plus le contexte dans les interactions entre les personnages, ce qu'ils racontent et tout. Tu sens que c'est un monde où c'est dur, mais c'est vrai que visuellement ça peut aussi s'apprécier pour des âmes un peu plus sensibles qui justement seraient rebutées par ce genre de violence graphique. Là, je pense que c'est assez regardable. Enfin,
voilà. Ouais. Bah après, moi, j'ai un autre indice, c'est le titre en japonais. Ouais. Puisqu'en fait, ils n'appellent pas du tout comme ça, c'est Senso Kyoshitsu. Donc, si on décompose, c'est la classe, comme une classe d'école, de la guerre. Donc, c'est plus. Moi, j'opte pour une réinterprétation très stratégique, ouais. quoi, de comment tu gagnes la guerre, Sun Tzu, mais version Dark Fantasy. Mmh. Mais après, non, j'avoue que. Bon, j'ai pas encore compris hein, le pouvoir du héros.
Je sais encore un peu. Bah, il joue super moi. Bien du clairon voilà. et les gens, ils vont faire des super.
Mais, oui, mais je dis ça en rigolant. Mais non, ça me fait rire parce qu'il y a aussi d'autres titres qui sortent là et qui, en fait, rajeunissent. Un petit peu effectivement l'héritage on va dire laissé par Miura. D'ailleurs c'est marrant, il y a un personnage, je pense que c'est quand même un gros clin d'œil dans The Bugle Call, mais c'est des jeunes garçons et contrairement à Guts, bah c'est leurs parents qui disent non, faut que tu étudies. Donc dans The Bugle Call, Lucas on leur dit non, il faut qu'il apprenne la musique, c'est son truc, il faut qu'il fasse la musique, même si pour ça il doit apprendre la musique qui permet de tuer des gens, si je grossis, mais vraiment
alors qu'il a un dégoût total pour la violence.
Exactement. Et je pense que c'est ça. Je pense à une autre série donc, qui s'appelle Hallmark, qui vient de sortir chez Komiku. Et c'est pareil, c'est des enfants qui ont vu la guerre, qui sont déjà habitués à un contexte de violence. Et leurs parents essayent de les rattraper au dernier moment en disant non, on va essayer d'explorer d'autres voies quand même. Même s'ils savent que c'est un peu passage obligé, parce que le contexte fait que c'est aussi une porte de sortie d'apprendre certains codes et d'apprendre la bagarre. Quoi. Mmh.
Et qui dit la classe dit donc une classe, uh-huh. une école, et il y a un côté manoir des X-Men. Si je oui. dis ça, je pense que tout le monde comprend un peu facilement. Oui.
Avec son fauteuil roulant.
Ouais, c'est un flutio. Voilà. Ils ont tous des pouvoirs, ils vivent cachés du monde, cachés des autres, civils, ouais. quoi. Quoi, dans une sorte de château.
Et ils sont marqués parce qu'ils ont des.
Ils sont marqués. C'est ça. Et parce qu'en plus, cette espèce des branchus, c'est une sorte d'espèce, entre guillemets. Mais toute la mythologie qui va avec, les petits éléments, parce qu'on ne nous dit pas tout encore, sont vachement bien amenés aussi. Mm.
Bah, je pense qu'effectivement, c'est ça aussi qui est très attirant dans le bouquin. C'est qu'il y a tout un lore, on sent, qui a été bien conçu, bien imaginé. Et il y a plein d'éléments déjà. Bon, je parlais du design du pape qui forcément te fait te poser des questions, mais effectivement, ce truc des branchus, on capte que c'est plus ou moins des élus qui ont chacun développé des espèces des capacités espèces de... hors normes et tout, qui pourraient être décisives dans cette bataille. Il y a l'histoire de ces tours aussi à conquérir, où voilà, pour l'instant, c'est, tout ça est encore assez, évidemment, on est au début, donc c'est encore assez flou, mais ça, je trouve que c'est plein de promesses. Enfin, il y a vraiment un truc très... on sent assez vaste à explorer et pour le lecteur, quoi.
Et on sent que c'est un titre shueisha, dans le sens où, même si c'est un seinen, même si c'est violent, peut-être pas tant que ça, mais c'est quand même suffisamment violent, on sent qu'ils essayent aussi de s'adresser à des jeunes adultes qui sortent, qui cherchent autre chose qu'un My Hero Academia ou qu'un Attaque des Titans, par exemple, avec chaque personnage qui a vraiment des pouvoirs particuliers. Mmh. Là aussi, on retrouve ce côté X-Men qui fait qu'on a envie de tous les découvrir. Et le pouvoir du héros qui semble absolument inoffensif, ce pouvoir, et qui pourrait être le pouvoir d'un réserviste, d'un second rôle. Et sauf que de ce pouvoir de second rôle, il devient le premier rôle de cette histoire.
Ouais, bah effectivement, c'est la dimension stratégique dont parlait Julie. Je pense que c'est ça aussi qui peut intéresser un public qu'on a peut-être un peu marre de voir juste des héros qui se bagarrent et c'est qui le plus fort et tout. Là, il y a un truc de vraiment
comment
on gagne une guerre. C'est aussi en utilisant des compétences autres que la force. Alors là, évidemment, il y a aussi des personnages très puissants et tout. Et puis là aussi, je pense qu'il fait un petit pied de nez en faisant en sorte que c'est une jeune femme qui est la plus forte, quoi, finalement. Enfin, y a un truc aussi, voilà, je pense qu'il aime bien, enfin, les auteurs aiment bien jouer avec certains archétypes. Et vraiment, moi, ça m'a bien plu aussi, ce côté où je sens que la promesse, elle va aussi être là sur mais comment on gagne une bataille, la stratégie va rentrer dans la narration de la série. Moi, c'est un truc qui me plaisait énormément dans Oshin, qui est une série qui fait partie de mon panthéon personnel. Et vraiment retrouver un peu ce truc, parce que le héros de Oshin, Tai Gong Wang, avait aussi cette capacité très balèze à utiliser la ruse, à manipuler les gens et aussi à mener des troupes. Et ça, voilà, c'est un truc dans ce titre que je sens aussi qui peut pas mal m'intéresser.
Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, il n'est pas du tout taillé pour. en plus. Oui. Enfin, en tout cas, dans le tome 1, et même nous, enfin, on a eu la chance de lire un peu plus, un peu plus loin. Et c'est ça aussi qui est intéressant d'apprendre à voilà, le charisme. On nous dit tout le temps que c'est inné. Bon, bah, peut-être pas tant que ça. Le management, on va dire.
Oui, parce que c'est voilà, ça, il est aussi. Il est lui-même aussi dirigé par. Enfin, voilà, voilà, les gens ont un peu l'amener là, vers là où il est le meilleur et tout. Donc, il y a tout ça aussi. Quoi. Voilà.
Pour les fans d'architecture. Il y a aussi des super... Non, mais ça existe. Il y a des gens qui adorent vraiment les beaux dessins de châteaux, de manoirs, oui, oui, ce genre de choses. Oui. Là-dessus, c'est super réussi. Pour les fans de champs de bataille, ils trouvent des cadrages vraiment super intéressants.
Hein.
Ouais, c'est vraiment pas facile et c'est assez chouette les cadrages qu'ils arrivent à trouver.
Et en plus, moi j'aime beaucoup cet équilibre. Comment dire, les pages sont pas trop chargées alors qu'elles sont très détaillées. Ouais. Et c'est vrai qu'on est resté sur le dark fantasy. Il faut que ça soit sombre et dark, autant au niveau de la psychologie des personnages, autant dans l'univers qui est complètement englouti par les ténèbres. Bah, là, les pages respirent exactement. Ouais. Et les découpages, effectivement, sont vraiment très, très chouettes pour mettre un pied dans un super univers. Quoi.
Et en plus, c'est totalement dans la vague actuelle des cernes sous les yeux des personnages de manga. On sent que c'est un manga de cette
époque. Un jour, on en parlera, Maxime. On fera une émission consacrée aux cernes.
Le classement des personnages les plus cernés du manga. The Bugle Call, donc le tome 1 est sorti il y a un mois. Le tome 2 sort dans un mois. Voilà, vous pouvez déjà vous jeter dessus si vous le souhaitez. Autre manga à venir, c'est Reflection. Le nouveau Keisanbe. Keisanbe, c'est l'auteur de Erased, de Echoes ou du Berceau des Esprits. Et donc Keisanbe, pendant qu'il faisait Echoes, qui vient juste de se terminer donc là au mois de février en France avec le tome 11 qui est sorti le mois dernier. Et en même temps qu'il faisait Echoes, il avait lancé une autre série.
Ah ouais, parce qu'il s'ennuie, sans doute.
Oui, parce que mangaka, c'est un boulot vite fait, quoi. Il avait décidé de lancer une autre série, sachant qu'il est scénariste et dessinateur à chaque fois, qui s'appelle Reflection, qui, elle, fait 5 volumes, et elle sort en France ce mois-ci, le 17 avril prochain. Et donc, après les mouvements temporels dans Erased, la gémellité dans Echoes, voici l'échange de corps. Mmh. Cette fois, entre un jeune adulte délinquant qui sort d'un dernier gros braquage et un enfant de CM2. Cet enfant de CM2, c'est Minato. Il vit avec sa petite sœur, Nagisa, et ils sont très souvent livrés à eux-mêmes puisque leur mère s'absente régulièrement pour aller au travail et ils ont pris l'habitude de s'occuper d'eux absolument tout seuls. Donc, ils sont quand même bien vaillants, les deux mômes, bien courageux, bien débrouillards. Et un jour, après l'école, la maman réapparaît et leur propose de les emmener tous les deux dans un parc d'attractions. Ils s'amusent, ils profitent et elle les fait monter dans la grande roue sans elle. Elle a le vertige, paraît-il, et elle disparaît. Elle disparaît pendant qu'ils sont dans cette grande roue. Et soudain, la foudre frappe la nacelle où se trouvent les deux enfants. Et ils n'ont rien. Sauf que Minato ouvre les yeux et il se retrouve dans une autre nacelle. Et à côté de lui, c'est plus sa sœur, mais une parfaite inconnue, qui a une sacrée particularité quand même, cette parfaite inconnue, celle d'être morte, la nuque brisée. Et il y a une autre particularité, c'est son reflet. C'est plus lui, c'est plus ce petit enfant de CM2, mais c'est celui du meurtrier, qui est donc recherché par la police et par ce qui semble être des yakuza pour un gros braquage. Il y a quand même peu d'auteurs qui ont un trait si particulier que Keisanbe, qu'on peut reconnaître en un coup d'œil aujourd'hui.
Ouais, et encore, je trouve que là, il s'est un peu... Alors, je sais pas si il s'est un peu relâché. Enfin, le trait me paraît plus souple et beaucoup moins... j'allais pas dire précis, mais tu reconnais hein, que c'est lui. Mais j'ai eu l'impression que...
Qu'il faisait deux séries à la fois.
Il y a eu d'autres séries où c'était plus acéré, quoi. Enfin, je sais pas comment dire.
Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais peut-être que pour le magazine, il a légèrement fait évoluer son trait.
Petite série en 5 tomes pour se mettre en jambes.
Non, mais c'est des choses qui arrivent, tu sais, avec... éditeur, autre conseil, autre retour sur son dessin. Mais c'est à notre époque, des auteurs comme ça, on en compte quoi, 15 peut-être, Des auteurs de manga qu'on peut reconnaître en un coup d'œil.
Ouais, ouais.
Ah, si, quand même. On va faire une liste, tiens.
Non, mais c'est vrai que. Alors, moi, en l'occurrence, sa patte m'a jamais vraiment beaucoup plu. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que je suis obligé de reconnaître que en une case, je sais qui c'est. Quoi.
Ouais.
Et par contre, c'est là où ce qui est assez intéressant avec cette série, c'est qu'on voit qu'il a aussi une autre patte.
Ouais.
C'est que c'est vraiment un mec qui fait des thrillers à concept. Quoi. C'est tout le temps.
Oui, c'est vrai.
Je vais essayer de raconter une histoire un peu voilà, avec du suspense. Du
et
mystère et tout, et des enfants,
ouais.
Mais aussi toujours un espèce de concept qui va être le truc très le truc fort de la série. Et là, effectivement, il y a cette histoire d'échange des corps. Et vraiment, bah, le premier chapitre est assez remarquable, quoi. Tout est vraiment bien posé. En plus, on pourrait dire qu'il y a même deux premiers chapitres, puisque t'as les deux
versions,
intros,
ouais.
Quoi, et ça se rejoint en milieu de tome à peu près. Et je trouve que le premier chapitre est assez remarquable avec voilà, cette espèce de gros climax de ah, oh, c'est plus lui et tout. Et moi, il y a un truc, la mère, je la trouve hyper bizarre aussi. Genre,
ah,
vraiment,
hyper flippante,
moi
ouais.
J'ai trouvé que la tension, elle était là à partir du moment où elle est arrivée, déjà cette personnage qui a pas on
de
voit
visage.
Pas ses yeux
en fait, ouais. Voilà, c'est ça, faut expliquer que tous les personnages sont dessinés comme ils dessinent d'habitude,
oui, oui.
Sauf
vous les avez déjà vus,
voilà, oui, c'est exactement des chara-design que vous avez vus à différents niveaux d'âge, sauf la mère qui n'est pas dessinée.
Ouais.
Il y a
c'est
les contours de son visage,
il ouais. y a
ses
bouche,
cheveux,
il y a sa bouche
et
c'est tout.
Ouais.
Et elle est toujours dans des cadrages qui fait que c'est acceptable de pas l'avoir dessinée. Et effectivement, elle met une tension
ouais,
bizarre.
Ça crée un truc tout de suite très étrange. T'arrives pas trop. Puis tu sais, même ce qu'elle dit, du coup, elle sonne un peu étrange. Il y a vraiment ça, pour le coup, c'est un truc qui est vraiment très réussi. Je dirais avec les armes qu'il a, puisque moi, encore une fois, c'est pas sa patte graphique me touche pas plus que ça. Mais en vrai, il s'en sert. Enfin, il maîtrise sa grammaire, quoi. Clairement, là, il est très fort.
Ouais. Non, mais effectivement. Mais là, je sais pas, en lisant celui-là, je me suis dit vraiment que le fait d'avoir toujours des enfants qui devaient affronter des adultes, parce que c'est ce qui va arriver. Enfin, à la fin du tome 1, tu te rends compte que qui va avoir. Comment dire ? Qui va avoir l'avantage sur l'autre en utilisant les atouts, les nouveaux atouts qu'il a, soit en tant qu'adulte, soit en tant qu'enfant. Bon, clairement, le mec, l'enfant devenu adulte part avec une main toute pourrie parce qu'il est recherché par la police, et par les yakuza, etc. Mais, et puis c'est un petit garçon, quoi. Mais je trouve que jusqu'à présent, j'avais pas fait très attention, ou peut-être j'avais pas. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de Keisanbe. Et là, je me suis dit, oh, mais vraiment, je sais pas, c'est devenu vraiment en plus de, effectivement, comme disait Robin, le côté thriller à concept, etc. Cette idée que, bah ouais, les enfants, il faut qu'ils se battent contre des adultes et qu'ils trouvent des alliés pour faire éclater la vérité, quoi.
Et ben, je l'aurais pas tant vu comme ça, je le verrais plus comme un trip de la relation qu'ont les adultes à l'enfance. C'est parce que dans Erased, le personnage passait de adulte à enfant.
Ouais.
Dans Icos, c'est un peu plus particulier parce qu'il y a la gémilité qui s'en mêle. Mais il est en reflet de tout ce qui s'est passé durant l'enfance des personnages,
oui,
là aussi. Et alors là, on n'a pas de passé futur ou de délai entre l'enfance et l'adulte, mais on a quand même un enfant qui se retrouve dans un corps d'adulte. Et on a surtout un...
Bah, t'as dit un délinquant. En fait, c'est pire que ça. Enfin, c'est
un
vraiment
criminel,
un criminel.
Oui, c'est un criminel. Ouais.
Il a tué
ouais.
plusieurs personnes.
Il a tué deux déjà dans le temps. Et non, après, ce qui est intéressant, c'est surtout que les deux personnages principaux, qui sont ce criminel et ce gamin, ils ont des enjeux complètement contradictoires, puisqu'en fait, finalement, lui, le gamin, bah, lui, évidemment, ce qu'il veut, c'est retrouver sa vie, sa petite sœur et tout. Et l'autre, on pourrait croire que c'est aussi ça son but, mais il veut pas en fait. Très rapidement, il dit ah, mais en fait moi je vis ma meilleure vie de petit gamin,
d'être dans la planque, sauf qu'il a une petite sœur
et je vais être planqué. Bon, voilà, après il y a la petite sœur qui le fait un peu chier, mais je veux dire, globalement, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on va se rendre compte que en gros le gamin va devoir un peu forcer le destin, et l'autre va lui mettre des bâtons dans les roues, quoi. Tu vois, c'est pour le coup, c'est un truc qui est, parce que le truc d'échange de corps machin, c'est pas hyper novateur, mais là, pour le coup, le fait que les enjeux des deux personnages soient aussi contradictoires, qu'en fait les deux personnages principaux sont les antagonistes, tu vois. C'est assez intéressant aussi. C'est qu'au final.
Qui va savonner la planche à l'eau. Ouais.
Donc, ça, c'est pas mal. Après, ça, je trouve que ça amène aussi des trucs un petit peu bizarres. Genre, le gamin, il est quand même très vite hyper lucide et très. il me semble quand même beaucoup trop mature pour son âge à comprendre déjà des trucs. Il a déjà capté que l'autre, il était dans son corps.
Il est quand même super débrouillard au début.
Oui, c'est vrai.
Alors, c'est qu'il est tout le temps seul et qu'il a une personne à charge en plus.
Et l'autre, très rapidement, il décide de se dire je vais être un gamin, ça va être bien, tu vois. Mais du coup, il y a des trucs un peu rapides comme ça qui sont un peu marrants, mais en vrai, ça fonctionne.
Bah, sur 5 tomes, c'est ça en fait.
Oui.
Parce qu'on sent tout de suite les bonnes ficelles Kaysan B, mais ce reste des ficelles Kaysan B. Donc, pour quelqu'un qui a lu tous ces mangas, il n'y a peut-être pas forcément de surprise. Il y a un petit décalage de curseur, mais il n'y a pas forcément de surprise. Mais pour quelqu'un qui n'en a jamais lu, on peut vraiment se faire avoir.
Ouais, et puis je pense qu'il faut vraiment pas non plus dire que c'est le manga révolutionnaire. C'est un manga qui te fait passer un bon moment parce que c'est bien fait. Comme tu lis un bon polar l'été et t'es content, quoi. Tu vois, c'est...
Moi, j'ai toujours pris KSMB pour ça. Enfin, je veux dire, il y a effectivement des bonnes séries qui sont. Après, moi, j'aime bien son trait. Hein, mais je trouve que c'est agréable. Comme tu dis, des fois, tu fais une petite pause, tu te replonges dans une de ses séries. Il trouve toujours la bonne dose aussi entre violence et thriller. Enfin, je sais pas comment dire. Des fois, ça peut être très sanglant. Mais dans d'autres séries, je veux dire. Mais je trouve que lui, il arrive quand même à garder un équilibre qui fait que tu restes quand même dans une espèce de chronique policière et pas déraper vers des choses un peu plus glauques ou complaisantes envers la violence.
Vrai feuilleton avec cet amour de maintenir le suspense du lecteur, quoi.
Et encore, dans le tome 1, il met vraiment les pions en place. Je pense que là encore, il sera question de spirale infernale et qu'elle va arriver dès le tome 2, puisqu'on n'a pas encore vu les Yakuza, on n'a pas encore vu qui dans la police enquêtait. La voisine devrait avoir son rôle à jouer,
oui.
Sinon on ne la verrait pas autant dans le tome 1, enfin j'espère. Et la mère, effectivement, qui va arriver à la fin en disant « En fait, c'est un rêve. » Et la mère qui va arriver à la fin, ça peut emmener sur une belle conclusion. Surtout qu'en 5 tomes, on peut imaginer que c'est maîtrisé de A à Z, quoi.
Oui, en plus, c'est ça. Quand je disais petite série comme ça pour se faire plaisir, là, ça, elle a l'avantage d'être courte. Enfin, moi, honnêtement, je pense que c'est... Prenez pas beaucoup de risques à vous lancer là-dedans.
Non.
The Reflection de Kaysan B aux éditions Pika, ça sort le 17 avril prochain. Une semaine après, le 24, c'est un nouvel événement.
Ah, attention.
La sortie de The Jojo Land, le nouveau Jojo's Bizarre Adventure de Araki. on va d'ailleurs proposer une émission consacrée au troisième arc à la fin de ce mois d'avril.
Oui.
Voilà, pour fêter l'arrivée de Jojo Land. Nous, on revient des années en arrière pour parler du troisième arc. Stardust Crusaders. Et puis le 24 avril, donc sort ce nouveau Jojo's pour ceux qui sont à jour, mais pas seulement. Je sais pas ce que vous en dites.
Ah moi je l'ai clairement lu alors que je suis pas du tout à jour. J'avais lu que la partie 1 pour quand on avait fait l'émission. et après je suis un peu familier avec l'univers, je connais le principe des stands et tout ça, mais donc je sais pas dans quelle mesure ça m'aide à bien comprendre. Mais après moi je l'ai lu vraiment, j'ai bien kiffé. J'étais vraiment dedans direct. Enfin tu sens que le gars c'est un. Ouais, c'est ça quoi, il tue, le graphisme il est incroyable, la mise en scène elle est carrée, enfin les persos t'es accroché page 3, tu connais les persos, enfin vraiment il est hyper fort quoi, et vraiment j'ai vraiment bien kiffé. Et puis
c'est ça en fait, et le chapitre 1, on parle des chapitres 1 depuis le début sur Yann, c'était le cas dans The Bugle Call, chapitre 1 il fait 120 pages.
Wow.
c'est la moitié du manga. Le chapitre 1 dans The Bugle Call, dans The Reflection on a deux chapitres 1 qui se reflètent justement. Et là dans Jojo's en fait c'est même pas le chapitre 1, c'est les 5 premières pages où tu comprends déjà qui sont les héros. Et même mieux que ça, t'as toutes les thématiques du moment qui sont moi, posé.
Non, mais c'est dingue,
là,
franchement, c'est...
Violence policière, transidentité...
Covid.
Covid.
on vous en voulez un peu
la
plus,
mafia,
vous en
ouais.
On a tout, là.
Ouais.
En plus, dans un truc, un univers assez original, un peu caribéen, ou je sais pas quoi.
On est à Hawaï.
Hawaï.
Et l'histoire, c'est donc celle de Jojo et Dragona Joestar, deux frères et deux comparses à eux. À quatre, ils ont une mission bien particulière, c'est de voler un énorme diamant, pas si énorme que ça, mais un incroyable diamant qui se trouve entre les mains d'un touriste japonais mystérieux. On vous dit pas qui c'est. Non, vraiment, on vous en dira pas plus sur ce fameux touriste japonais. Et donc, ils doivent lui dérober ce diamant. Donc, ça se compose comme une série de cambriolages de...
Oui,
c'est Ocean's Eleven.
Mais avec des super pouvoirs, quoi. Donc, du coup, il y a un côté... Moi, c'est marrant, ça m'a vraiment, évidemment, tout de suite envoyé une vibe Togashi, tu vois. Bon, après, c'est un peu paradoxal de le dire ça, étant donné que c'est Togashi qui s'est inspiré de Araki, mais tout de suite, oui, ce truc de... les gars vont devoir utiliser leur pouvoir pour subtiliser, pour faire vraiment un truc de casse, un truc de cambriolage. Je trouve que c'est des trucs que tu retrouves dans Hunter. Et puis en plus, évidemment, les fonctionnements des stands qui sont complètement hyper chelous, quoi, avec des règles très bizarres.
C'est ça qui est génial quand tu lis un tome 1 de JoJo's.
Bien sûr, ouais.
C'est que tu ne comprends pas les stands avant un petit moment.
Non.
Là, tu les comprends. Il n'y a que vraiment à la fin le fameux touriste japonais.
Que tu n'as pas compris.
Compris.
Alors, ça, c'est normal aussi. Mais genre, Jojo, tu as compris le November Rain exactement ce
non,
que c'était.
Non, j'ai l'impression que c'est une pluie qui fait du poids, quoi, et qui pèse sur les gens. Quoi, comme si tu te faisais pleuvoir des trucs de métal sur la gueule, quoi.
Et Dragona, t'as compris?
Ouais, c'est des petites machines qui déplacent les choses et qui les remettent dans d'autres endroits.
Moi, ça me semble encore super vague les standards.
Non,
sur
bien
sur
sûr, oui, tu te doutes bien que t'as pas tout vu, mais et puis évidemment il y a ce truc, ils ont tous des noms de chansons, donc forcément ça c'est on en avait déjà parlé, mais ouais, c'est la science arakiesque de mettre de la musique un peu partout.
Bon, après, donc là, ça a quand même un côté casse un petit peu Ocean's Eleven dans l'esprit.
Dans l'esprit.
Mais oui, dans l'esprit. Mais c'est pas la première infiltration non plus, c'est pas le premier vol non plus, ouais, avec des personnages qui ont des stands, etc. Donc il y a des choses qu'on a déjà vues. Mais en même temps, on est...
C'est une partie neuve, hein.
C'est ça. On est dans la suite de quelque chose.
Ouais.
Donc, on aura forcément des choses qu'on a déjà vues, mais avec toujours un peu de nouveauté.
Mais c'est vrai que moi, je l'ai lu en me disant, justement, je vais tenter l'expérience. Et je trouve que c'est fou à quel point ça marche quand même, tu vois. Ça, c'est assez remarquable, quoi. Et a priori, si j'ai bien compris, chaque partie, tu peux les lire dans l'ordre que tu veux.
Dans l'absolu, ouais.
Globalement, ce qui se passe, quoi.
Ouais. Bah, alors surtout, mon conseil, c'est ne le lisez pas dans le métro. Parce que moi j'ai été un peu gênée quand même pour certaines scènes et du coup je suis passée un peu vite, donc je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir le lire tranquillement et pouvoir reprendre la lecture vraiment au calme. Mais oui, effectivement, on retrouve plein de choses qu'on aime dans Araki, dans JoJo's, et surtout, enfin, je trouve que son dessin est encore, encore changé. Enfin, il y a quelque chose qui est encore un peu différent de ce qu'on a lu dans les arcs précédents.
Lui, il fait partie des 15 qu'on peut reconnaître.
Forcément, oui. Et puis la façon dont il les fait apparaître dans les pages, comment les choses se télescopent aussi, le cadre très contemporain, très reconnaissable, avec des véhicules qu'on connaît, des objets qu'on connaît, et puis ces personnages complètement arakiesques, avec des tenues improbables, des dégaines, des façons de se tenir. Là, c'est peut-être moins marqué qu'il y a certaines années, mais je trouve que là, c'est plutôt dans le langage, quoi. Tout de suite, on sait qui on a en face de nous. C'est des espèces de petites frappes qui passent la
péter. Alors, plus qu'une petite frappe, et moi, c'est ça qui me frappe, justement. Jojo est un psychopathe, un sociopathe.
Alors moi je l'ai pas forcément vu comme un sociopathe, mais après je peux
ouais,
moi
je l'ai peu, vu je peux comprendre mais
je l'ai vu vraiment comme un personnage c'est un malfrat quoi, donc du coup
un peu
genre
des
les affranchis, tu vois, c'est pas tous des c'est des personnages qui ont aussi leur propre trajectoire, mais je pense que ce qui te fait penser ça, c'est aussi qu'il y a toute cette narration en voix off avec le mec qui raconte sa propre histoire. C'est hyper littéraire, tu vois, ce truc de la voix off du mec qui vraiment là il y a un côté les affranchis aussi quoi, du gars qui dit je vais vous raconter comment je suis devenu le mec le plus riche de l'île, de l'archipel et tout, enfin tu vois il y a vraiment un truc
et on est dans sa tête et dans sa tête ça va pas enfin, moi c'est ça qui me fait me dire ça hein. C'est que effectivement on est dans sa narration mais il explique comment il veut devenir, parce que c'est ça le but aussi en plus, il doit voler, il doit faire un casse, mais lui son but cet ado de 15 ans 16 ans 15, c'est de devenir l'homme le plus riche de l'île. Il y a une espèce de côté totalement débile dans son souhait et en plus quand il explique ce qu'il pense, ce qu'il voit, la manière dont il perçoit les choses, mais c'est tout ça qui me fait me dire que c'est un psychopathe.
Après quand tu vois son quotidien dans les fameuses 5 premières pages qu'on évoquait tout à l'heure, tu te dis qu'il y a de quoi être assez déstabilisé quoi.
Avoir un stand déjà c'est,
oui,
c'est un peu déstabilisant.
En plus, après peut-être on va vers ça aussi, c'est dans, on y reviendra peut-être plus tard dans les émissions consacrées à la série, aux séries JoJo's, mais il y a cette idée un peu comme on avait chez Émile Zola de l'atavisme, ils ont un atavisme qui se traduit par l'apparition de super-pouvoirs, de stands, de choses qui sont invisibles à plein d'autres personnes autour d'eux. Et c'est que la malédiction continue, en fait. Donc, c'est vrai qu'ils ne vont pas mieux dans sa lignée.
Et puis, tu dis que c'est un sociopathe, mais tu as vu la galerie de personnages de Stoma, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. C'est les flics, c'est des ordures corrompues.
C'est affreux.
La façon dont ils traitent son pervers, machin, et tout. Leur boss, c'est super. Mais ce perso est incroyable. Enfin, pour imaginer un personnage comme ça, mais il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Ils sont tous complètement cintrés. Et lui, c'est peut-être le plus finalement,
le moins fou,
qui va justement utiliser sa raison pour.
Moi, je le vois bien finir serial killer.
En même temps,
plus ce sentiment-là.
On en a vu d'autres.
Et autant son frère, j'ai pas l'impression qu'il est parti pour devenir.
C'est vrai qu'à la limite, son frère, c'est le perso le plus normal, je dirais, si ce n'est ça, son trouble identitaire, on va dire, mais sinon, c'est le plus normal, quoi.
Bon voilà, on vous en dit pas plus, on reparle de JoJo's pour parler de l'arc 3 dans quelques semaines, à la fin de ce mois, dans 4 émissions je crois si je dis pas de bêtises. Et The JoJo Land, ça sort donc le 24 avril, vous pouvez vous aussi vous jeter dessus à sa sortie si vous voulez découvrir ce monde de JoJo's par un autre biais plus actuel. Là au moins vous êtes dans l'air du temps, vous êtes dans ce qui sort en ce moment. Allez, un dernier manga en quelques instants puisqu'on va consacrer la prochaine émission entièrement à ce titre, c'est Kindergarten Wars, ça sort cette semaine, c'est l'histoire de Rita qui travaille au Kindergarten Black, aka la maternelle la plus sûre du monde. Puisqu'elle accueille les enfants des grands de ce monde. Elle accueille que des enfants de l'élite. Particularité, donc, tous ses employés sont par conséquent des criminels ultra compétents, ultra doués, chargés de repousser toutes les attaques contre les enfants. Et Rita, l'héroïne, elle est elle-même une tueuse légendaire qui, en échange d'une remise de peine, a accepté d'être enseignante, encadrante dans le programme pédagogique, dans l'équipe pédagogique de ce jardin d'enfants totalement débile. Mais cette experte en combat, elle n'a qu'un rêve, c'est de trouver l'amour. Et donc pour elle, tout assaillant est un potentiel futur beau gosse, même s'il est tueur, mais il faut qu'il partage ses goûts. Et elle a des goûts assez précis, assez dirigés, notamment sur façon dont on mange les ramen, par exemple.
C'est surtout que ces red flags, ils sont vraiment... Et puis surtout, c'est red flag.
Il n'y a pas de choix. Ça peut être sur la cuisine, sur la personnalité,
cinéma,
sur les goûts. Cinéma, exactement. Donc à chaque adversaire, il y a un petit quiz. Et selon la réponse au quiz, soit on reverra le personnage, soit plus personne ne le reverra. Parce que n'oublions pas qu'elle est tueuse.
Oui, mais c'est, pour le coup, là, c'est bien barré. Enfin, je veux dire, JoJo's, effectivement, ouh, il y a des sociopathes, mais bon, bah, ils sont pas
bon,
mieux.
On rigole
là.
Beaucoup moins quand même dans JoJo's.
Oui, parce que là, c'est complètement absurde. Avec Rita qui voilà, est complètement perchée sur sa planète de oh, je vais vivre un grand amour avec un éventuel beau gosse. Et puis qu'en fait, elle est. Bah, elle les tue. Pour dire les choses voilà pour dès que ça ne lui plaît pas et y a toujours aussi ce, comment dire comme on a vu bah, dans d'autres séries le masque de la gentille institutrice qui présente bien hein, qui ne fait pas peur aux enfants mais qui fait peur à tous les autres.
Ouais, bah c'est on est un peu entre Spy Family et Sakamoto Days, donc je lui promets un sacré avenir.
C'est le chaînon manquant, hein. C'est clairement le chaînon manquant entre Spy Family et Sakamoto ouais. Days.
Bah après moi j'avoue, j'ai bien trippé, ça c'est vraiment très bien fait, c'est très marrant et tout, c'est bien dessiné. Ça a tout, enfin en tout cas ça a tout pour plaire au lectorat de ce type de série. C'est vrai que moi ça m'a quand même fort fait penser à Sakamoto Days.
Oui,
je pouvais pas vraiment me retirer ça de la tête parce que vraiment le pitch est le même si tu changes trois mots quoi. Mais
oui,
sinon
oui.
C'est.
Et oui.
Mais globalement j'ai un peu le même sentiment qu'au début de Sakamoto Days, c'est que je trouvais ça marrant et en même temps bon ça tourne un peu en rond. Sauf que Sakamoto Days, c'est devenu hyper cool maintenant. Donc je me dis, là, je mets un peu ce billet-là sur cette série-là en me disant, si ça se développe comme ce qui est devenu Sakamoto Days, ça peut devenir très cool aussi.
Ne jamais trop se fier au premier chapitre. Parce qu'on peut être, assez, assez sacrément surpris. Donc voilà, on en reparle pendant... pas une heure, mais pas loin, la semaine prochaine. Donc on aura plein de choses à dire sur cette série.
Ok.
Yes.
Merci de nous avoir écoutés. Vous retrouvez tout ça sur. Vous allez retrouver tout ça en librairie dès maintenant pour certains titres. Je vous redonne la liste. Yann, Yann, pas comme le prénom breton, de Bugle Call, de Reflection, JoJo's, The JoJo Land et Kindergarten Wars, évidemment.
Et voilà.
J'espère que vous avez pris des notes pour faire grandir tranquillement votre pile de lecture. Et puis donc on se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Ciao. Salut.
Salut.